C'est qui?
Portrait timbré. Complètement timbré.
Ah oui, portrait timbré.
Ah, c'est un apanamo. Patinochki.
Bonjour, donc on va commencer la nouvelle émission, toute nouvelle. Donc c'est notre premier essai. Donc je vous demande à tout le monde de nous pardonner. C'est la première fois, une grande aventure pour nous. Et l'idée de cette émission est née en discussion entre les trois filles. Et en discutant un jour, on s'est retrouvés au fameux bar auberge Le Champ Commun, et on s'est dit que ça serait bien de proposer une émission et de faire un portrait. C'est comme ça en fait donc qu'est née cette idée, et voilà la première émission. Et on va parler donc ça va être un portrait d'une personne. Une personne, toujours le critère principal en fait, c'est que la personne soit intéressante. Et je pense qu'on a autour de nous beaucoup, beaucoup de personnes très intéressantes. Et avant de commencer par la première personne très intéressante qui a voulu participer en qualité de cobaye à cette toute première émission, je vais me présenter en deux mots. Donc, je m'appelle Ina Moldovanou, je suis psychologue. C'est peut-être pour ça mes questions vont être un peu orienté peut-être, un peu dans le sens psychologique de terme, mais j'essaierai là encore de me maîtriser un peu mon côté psy. Et ça fait 20 ans que je suis psychologue, et j'avais envie aussi de faire autre chose que écouter des plaintes, des personnes qui viennent me voir. On va essayer donc de faire des portraits timbrés de nos invités. Et donc, je vous présente Anne.
Bonjour.
On va commencer. Donc, je vous dis que ce n'est pas quand même un entretien psychologique, mais tout de suite, j'ai envie de poser une question, et je pense que ça va être ça, l'émission. Je vais lutter, ça va être une lutte interne pour moi entre mon côté psy et un côté un peu, ouais, je sais pas, journalistique.
Tu ne connais pas les réponses que je vais t'apporter, donc oui. Peut-être que ça va mettre du pétillant.
Oui, donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance, hein, très très vite, et juste pour dire, t'es née où, et si tu peux nous dire quand,
oui,
aussi.
Oui, bien sûr. Je suis née à Lyon, mais j'ai vécu mon enfance en Vendée. Je suis née en 1971, donc je vais avoir 48 ans. Et j'ai eu la chance de vivre dans une famille aimante, et où on a beaucoup joué, où il y a eu beaucoup de plaisir partagé. Donc avec des frères et des sœurs qui étaient là, et des parents très entourants.
Comment ça se fait que maintenant tu es en Bretagne ?
Alors, la vie, elle emmène à prendre des chemins différents. D'abord, je m'étais dit, j'ai pas envie de rester là où j'ai passé mon enfance, même si j'y retourne avec beaucoup de plaisir. Et j'ai eu aussi envie de prendre des chemins différents. J'avais envie d'aller à l'étranger, donc j'ai décidé que je passerais pas ma vie en Vendée, à côté de chez mon papa et ma maman.
Et donc, t'es partie ?
Et je suis partie.
À quel âge ?
Je suis partie, j'avais 18 ans après le bac, et je suis pas allée très très loin, hein, je suis allée à Nantes, hein, mais c'était déjà une aventure. Et puis de Nantes, je me suis dit, je vais aller plus loin, parce que j'ai appris l'allemand, et du coup, je me suis dit, je vais aller vivre là-bas. Donc je suis partie en Allemagne pendant 2 ans. Où j'ai pu avoir des expériences différentes en étant fille au père, en étant enseignant dans les lycées, en travaillant à l'hôpital, voilà, des petits boulots par-ci par-là. Mais ça m'a beaucoup appris, parce que quand on vit à l'étranger, on a ses repères qui changent. On n'a pas tout de suite accès à ses habitudes, même si j'étais pas dans un dépaysement complet, j'étais encore en Europe. Donc voilà, ça m'a... Et j'ai surtout fait des super rencontres. Des super rencontres de gens qui sont encore là aujourd'hui et qui m'animent encore, et quand il y a besoin, allô.
Et donc, tu as décidé quand même, malgré cette expérience très intéressante et passionnante pour toi, t'as décidé de revenir ?
Oui, j'ai décidé de revenir parce que j'étais pas toute seule et puis parce que peut-être aussi parce qu'il y a des racines et donc elles étaient importantes pour moi ces histoires de racines. Et puis aussi parce que je suis tombée amoureuse. Donc ça, c'est je suis pas tombée amoureuse en Allemagne, je suis tombée amoureuse en France. Donc je suis aussi revenue vers cet amour-là. Et puis aussi parce que la vie, elle m'a emmenée du côté de la Bretagne. Tout petit, en avançant du côté de Nantes et puis en remontant sur le Morbihan et puis le Finistère, redescendant, voilà. Mais effectivement, la Bretagne, pour qui, pourquoi, c'est là que, que ma vie s'est installée.
T'as fait des études ?
Oui, j'ai fait des études d'allemand, avec l'idée que je pouvais enseigner, et puis ça n'a pas fonctionné. J'ai passé un certain nombre de fois le concours, puis je ne suis pas rentrée dans le moule, donc j'ai fini par faire autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait dans un institut médico-éducatif, et avec des ados qui avaient des problématiques psychiatriques. Voilà, je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas ça ? Parce que j'avais vraiment envie d'enseigner. Donc ça, c'était un moteur. Enseigner pas comme j'avais appris. Ça a toujours été ça. Je veux pas enseigner comme j'ai appris. Parce que je me suis ennuyée. Donc je me suis dit, il va falloir que ça soit plus créatif que ça. Pas pour ce que moi, j'en avais envie.
Et pourquoi l'IME, donc Institut Médico-Éducatif, c'est ça ?
Alors pourquoi ? Je pense que le défi, c'était à chaque fois, j'ai pas envie d'enseigner, peut-être comme la majorité des gens, ou avec la majorité des gens, même si j'ai pris beaucoup de plaisir dans les expériences que j'ai eues avec des élèves qui avaient un parcours dit plus normal, le défi c'était peut-être de devoir être créative dans l'enseignement que j'allais proposer. Donc c'est les ados et les enfants que j'ai rencontrés, de toute façon, ils ont une intelligence tellement singulière et tellement multiple que j'ai eu à créer et ça m'a vraiment, ça a vraiment été un grand bonheur.
Donc ça a été très intéressant pour toi. Et après, quand tu es devenue mère, tu as 3 enfants, c'est
oui,
ça ?
Trois enfants. Oui.
Et tu as continué ta carrière d'enseignante ?
Oui.
D'accord. Mmh.
J'ai continué, j'ai mené de front la vie de famille, la vie aussi avec tout ce qui se passait à l'IME, et puis avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie d'en faire toujours plus, mon corps m'a dit à un moment donné, stop, là, tu fatigues, t'en fais trop. Mais c'est pas facile de voir les choses, de s'arrêter. On a toujours la culpabilité de dire, oh là là, on va laisser des gens sur le carreau. Donc voilà, je suis tombée malade en fait. Je suis tombée malade et là, on s'arrête.
On va y revenir, mais je voulais juste quand même s'arrêter encore à cette histoire de ta vie. Quand tu dis, voilà, t'enseignais auprès, tu travaillais tous les jours, quotidien, avec des enfants qui avaient certains soucis. Et en même temps, tu avais des enfants. Est-ce que ça... Comment ça agit sur ta pratique ? Comment tes enfants, le fait d'avoir des enfants, a agi sur ta pratique d'enseignante ? Et comment, s'il y a eu l'inverse aussi ? Si tu as appris quelque chose avec les enfants qui t'a permis de faire autrement, peut-être avec tes enfants à toi ?
Alors, sans doute que ça interagit. Je ne me suis pas posé les choses comme ça, en fait. C'était assez scindé, j'ai envie de dire. Ce qui se passait à la maison, c'était ce qui se passait à la maison. J'étais en 100% à la maison quand j'étais à la maison, et puis 100% au travail quand j'y étais. Mais oui, ça a interagi. Moi, je me suis toujours dit... c'est vraiment chouette de vivre dans un milieu où on a la possibilité de rencontrer plein de gens, où on fait en sorte que les choses elles soient douces et que la violence, elle est pas chez soi, elle est ailleurs. Parce que les enfants et les adolescents que j'ai rencontrés en classe, ils étaient abîmés par la vie. Donc chaque jour, j'ai mesuré combien j'avais de la chance. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a transportée parce que ça signifiait que quand je rentrais chez moi, c'était aussi le sas. Je pouvais déposer et puis décompresser. Et puis aussi, quand je revenais à l'école avec ces jeunes-là, de dire on peut peut-être transformer toute cette violence-là que vous avez ou que parce que votre histoire, elle a été telle qu'elle a été, mais ça peut peut-être se transformer. Donc moi, je me suis vraiment employée à faire en sorte que ce que j'avais à transmettre, c'était joyeux.
Et donc, on revient à cet épisode de ta vie. Donc, tu disais que tu as beaucoup travaillé, tu t'es beaucoup impliquée et que ton corps a commencé à lâcher.
C'est ça. C'est ça, finalement, on se croit super Wonder Woman et puis ça fonctionne pas jusqu'au bout. Donc, quand le corps, il lâche, on s'arrête. C'est là, ça a été un premier avertissement, puisque je me suis vraiment arrêtée. Avec une grosse culpabilité de ne pas être capable de tenir. Et puis, mais quand il faut se reposer, ben, on se repose. Je me suis donc reposée. Et puis, je suis repartie, comme si je n'avais pas entendu cette première alerte. Donc, je suis repartie au bout de 3 mois d'arrêt de travail. Je suis repartie travailler avec le grand plaisir de retrouver ce que j'avais laissé pendant 3 mois. Mais avec la surprise que ça n'allait pas forcément mieux. Enfin, que ça allait toujours plus vite. Toujours plus vite et qu'il y avait des demandes toujours plus importantes de la part du cadre. C'est pas l'enseignement qui m'a fatiguée. Moi. C'est tout le cadre autour, à savoir... tout ce qu'on peut exiger, il fallait absolument que les jeunes, les adolescents et les enfants qui étaient dans cette institution rentrent dans une certaine forme d'enseignement. Donc moi, j'étais pas prête à ça. C'est-à-dire que je voulais pas que ces enfants ils soient ce que nous, on avait voulu qu'ils deviennent. Je voulais qu'ils soient eux, avec ce qu'ils étaient.
Il me semble que c'est quelque chose de très important ce que tu dis. C'est-à-dire, nous, on a nos critères, nous, on a notre science à nous, si on peut dire, et on impose cette science aux enfants. Et donc ça, cette situation-là, tu l'avais mal vécue.
Oui, ça a vraiment été, un déclic pour me dire, oh, ça ne va pas pouvoir durer ce truc-là, ça ne va pas tenir, parce que je ne vais pas pouvoir faire en sorte qu'ils rentrent dans un moule que eux n'acceptent pas.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu avais fait ?
J'ai décidé d'arrêter.
D'accord.
J'ai décidé d'arrêter. J'ai pris le temps. J'ai décidé d'arrêter parce que j'étais vraiment fatiguée, épuisée. La seconde alerte, elle a été importante. Donc, je me suis dit, j'arrête. Et puis, je prends soin de regarder peut-être ce que j'ai à regarder chez moi. J'avais beaucoup regardé les autres, j'avais beaucoup aidé et je pense que j'avais besoin d'être aidée. Donc je me suis fait accompagner et j'ai eu besoin de me faire accompagner par une professionnelle qui prenait en compte le ressenti physique. Parce que je me suis rendu compte que j'étais déconnectée de mon corps en fait. Que au bout d'un moment, il a fallu que je sois extrêmement fatiguée et peut-être épuisée totalement pour comprendre que si je veux tenir, il va falloir que je l'écoute. Donc j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un qui travaille à partir du ressenti corporel.
Comment s'appelle cette discipline ?
Alors c'était une psychologue en gestalt. Donc la gestalt, elle a vraiment accompagné pour que je sois à l'écoute de mes émotions. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, quoi ? Quand je ressens quelque chose, si je reviens sur des événements du passé ou si je regarde des événements à venir, à chaque fois, ça fait quoi dans ton corps, quoi ? Et ça, quand on ne se la pose pas, cette question, là, en me la posant, je me suis rendu compte que ben, y avait des trucs qui étaient bizarres. Je pouvais ressentir de la douceur, comme je pouvais ressentir de la douleur ou de la tristesse, ou parfois les deux en même temps. Et voilà, c'est comment ça s'est traduit au niveau de mon corps. Et cette expérience-là, je l'ai trouvée absolument géniale, parce qu'on est quand même dans une société, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est quand même dans une société où on est toujours dans notre tête, on est toujours là-haut. Et on n'est pas dans nos pieds. Donc moi, je suis redescendue dans mes pieds.
Et donc, après
Après, je me suis dit, c'est trop bien cette histoire de corps. Et en même temps, j'avais quand même le souvenir que ça m'avait nourri toute cette période d'enseignement avec les jeunes. Je me suis dit, j'ai aussi remarqué qu'eux, ils étaient déconnectés de leur corps. En tout cas, on faisait en sorte qu'ils soient toujours à réfléchir, à apprendre des trucs qu'ils ne comprennent pas forcément, qui n'ont pas forcément de valeur pour eux. Donc je me suis dit comment je peux faire en sorte d'accompagner autrement que dans l'enseignement, aussi à travers le corps. Donc je me suis formée en éducation kinesthésique, en kinésiologie éducative.
Est-ce que tu peux dire juste deux mots pour ceux qui découvrent un peu cette discipline?
Ouais, c'est une façon de regarder et d'écouter son corps par le mouvement. Ce sont des petits mouvements, ce sont des mouvements simples, ludiques, qui permettent de retracer un nouveau chemin de mémoire. On a parfois assez d'un fonctionnement qu'on peut avoir, et grâce à ces mouvements-là, on va stimuler certaines parties du cerveau, et puis on va prendre un autre chemin que celui de l'habitude qu'on avait prise jusqu'alors. Donc ça remet en place, ça retrace des chemins au niveau neuronal, et puis en lien avec nos émotions, notre corps bien sûr. Donc c'est des petits mouvements, et des petits mouvements qu'on a eu quand on était tout petit dans le ventre de notre maman, et qui nous ont permis de tracer notre schéma corporel, et parfois le schéma il n'est pas complet. Donc on a besoin d'aller retracer le schéma complet.
Et dis-moi, donc tu as fait une formation pour ça, d'accord?
Une formation assez longue, et puis à un moment donné, je me suis dit, faut que ce que j'ai appris, je le mette en application. Donc j'ai ouvert un cabinet, et puis je forme les gens aussi pour leur transmettre ces mouvements-là. Pour que la vie, elle soit... L'idée, c'est que la vie, elle soit facile et belle.
Et dis-moi aussi, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie personnelle, dans le rapport avec tes enfants?
Alors, j'ai remarqué quelque chose de très important. Moi, je me suis employée pendant plus de 40 ans à faire en sorte que les autres y changent. Peut-être un peu à mon image, parce que j'avais envie qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas du tout. En fait, j'ai compris que je ne pouvais pas vouloir que les autres échangent. La seule personne pour laquelle je peux vouloir le changement, c'est moi. Donc j'ai pris un petit peu ce taureau par les cornes, j'ai changé, et alors là, extraordinaire, les gens autour de moi, ils ont changé, sans que j'aie demandé quoi que ce soit. Et mes enfants, les premiers, ils en ont tiré le bénéfice, mon compagnon aussi, c'est-à-dire que quand on dénoue des nœuds, à soi, de sa propre histoire, on permet à nos enfants de se libérer de ces nœuds-là aussi. Donc ça, c'est super chouette, de voir que on se fait grandir mutuellement, en fait.
Et dis-moi, Anne, on va finir bientôt cette émission, et je voulais juste te demander, tu as eu le courage et tu n'as pas hésité, tu n'as pas caché ton âge. Il y aura bientôt, dans deux ans, une date un peu fatidique, 50 ans. Qu'est-ce que ça te fait déjà?
Alors, ça me réjouit parce qu'en fait, je suis en train d'inventer d'autres possibles que je n'ai pas encore explorées. Et le fait d'avoir devant moi... toute cette nouveauté, en fait, ça me réjouit. Et je suis pas en train de me dire « Ouh là là, ça va être comment, là, quand on va passer le demi-siècle ?» J'ai plutôt envie de vivre l'instant, et là, l'instant, il est chouette, il est beau.
J'ai presque envie de finir sur cette phrase, mais toute dernière question, est-ce que tu peux nous parler de tes projets?
Oui, après, dans les projets, c'est ce qui s'ouvre comme perspective, c'est de développer cet accompagnement auprès des enfants et des adultes en cabinet, et puis tout d'un coup, est arrivée aussi la possibilité de créer une entreprise et de gérer dans cette entreprise l'accompagnement des gens à travers l'hébergement, à travers un gîte, l'accueil en gîte et l'accueil au cabinet. Et ça vient s'imbriquer. Voilà, ça met de la perspective, ça met de l'envie, de l'enthousiasme, mais aussi de l'inconnu. Et voilà, et aller vers cet inconnu-là aujourd'hui, c'est plus exaltant qu'effrayant.
Écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que ça a été, en tout cas pour moi, ça a été un échange très très riche, très intéressant. On te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets.
Merci.
Et merci à tout le monde pour cette première émission Portrait Timbré. À bientôt.
C'est qui?
Portrait Timbré. Complètement timbré.
Ah oui, portrait timbré. Ah, c'est là. Oh, non, c'est un apanage.